Michel Onfray, Michael Azoulay, bonsoir. Merci d'être venu et merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour vous écouter. Pour vous écouter, évoquer ce livre, Dieu, point d'interrogation, évidemment on y reviendra, car tout est dans le point d'interrogation. Cette rencontre inattendue et passionnante à votre initiative, Michael Azoulay, donc vous êtes rabbin à Neuilly, où vous avez voulu donc discuter avec Michel Onfray suite à ce qui avait été l'un des moments forts de votre notoriété, Michel, qui était effectivement l'apparition. Vous en aurez d'autres après, hein. Qui était l'apparition effectivement du traité de la théologie qui avait suscité chez vous, Michael Azoulay, évidemment bien des réflexions par rapport à, justement à cette question de Dieu. Mais il me semble que l'une des vertus absolument passionnantes de ce livre, qui contient bien d'autres thèmes d'ailleurs que celui de Dieu, c'est justement la capacité et l'énergie que vous déployez l'un et l'autre à débattre, et justement à débattre dans un moment où, actuellement où on est plutôt sur l'invective, l'agression. Et même si vous n'êtes pas d'accord, et je pense que vous finissez le livre sans être d'accord, et c'est l'une des vertus de ce livre aussi, aucun des deux ne convainc l'autre, ni de l'athéisme, ni de l'existence ferme de Dieu, mais j'espère que je ne spoile pas le contenu du livre en vous avouant cela. Ce qui fait la richesse de ce livre, effectivement, c'est ce rapport au débat, et à la fois le respect, malgré le désaccord, dans lequel vous êtes l'un et l'autre. Alors, finalement, on pourrait presque poser comme question princeps et qui est faussement paradoxal. Est-ce que ce débat autour de Dieu est possible? Est-ce qu'il a un sens? En fait, est-ce qu'on peut débattre tout simplement de Dieu? Et qu'est-ce que cela peut signifier? Peut-être, commençons par vous, Michael Azoulay, est-ce que c'est vous qui avez initié le débat autour de cette question?
Ben, écoutez, en fait, moi, je pense que le débat est possible, que l'on croit que je dis dans le livre d'ailleurs, que l'on croit ou pas en l'existence de Dieu. Quelqu'un qui croit vraiment l'existence de Dieu, il se situe aussi quelque part par rapport à Dieu, c'est-à-dire quand il dit qu'il n'y croit pas, quelque part, paradoxalement, il se situe par rapport à la croyance en Dieu. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, on peut en parler. Dans le livre, je rappelle aussi que fut une époque où de très nombreux philosophes éminents ne voulaient absolument pas s'abstraire de Dieu. Et pour autant, on ne les a pas disqualifiés, on n'a pas remis en cause leur qualité de philosophe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, quand je parle de la méfiance un petit peu par rapport aux philosophes dans la tradition juive, je pensais précisément aux philosophes qui remettent en cause justement l'existence de Dieu, parce que beaucoup de philosophes ne mettent pas en cause l'existence de Dieu. Voilà, moi, en tout cas, je pense que ce qui était important avec Michel, c'est de démontrer qu'on peut tout à fait avoir des opinions très différentes, venir de milieux d'éducation vraiment parfois opposés, et en même temps être capable de dialoguer ensemble. Donc, vous avez compris que le but, c'est absolument pas de convertir l'autre. C'était pas du tout ça, mais le but c'était de mettre des mots sur parfois quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Et moi personnellement, ça a été très intéressant parce que les gens qui croient en l'existence de Dieu ne le formulent pas. C'est je dis à un moment donné, ça a énervé, ça a agacé Michel. La foi s'éprouve plus qu'elle ne se prouve. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on éprouve, mais c'est pas suffisant quand on a affaire à une personne qui ne croit pas et elle nous oblige à sortir de cette subjectivité en essayant de trouver des arguments les plus objectifs possibles. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va convaincre l'autre, mais on va essayer de le faire entrer dans le monde qui est dans le monde qui est le sien. Voilà, c'est un petit peu ça l'objet de ce livre.
Michel ? Oui, moi je voudrais remercier Michael parce que c'était plus risqué pour lui d'accepter un livre comme celui-ci que pour moi. Je sens le souffre un peu, et donc depuis ce fameux livre. Et Michael a eu l'amitié de ne pas donner le détail, mais c'est vrai que quand le traité de la théologie est paru, il a eu le désir d'écrire un livre contre mon livre, et je le comprends. Et un jour, une amie commune, Myriam Ilouz, qui a enseigné la psychanalyse à l'Université populaire pendant des années, et me dit, voilà, le rabbin de ma communauté aimerait te rencontrer, aimerait débattre avec toi. Et je dis, mais pas de problème, mais ceci dit, rencontrer un rabbin dont le métier consiste à lire, à penser, à réfléchir, ça se prépare. Je peux venir dans plein d'endroits, les mains dans les poches, et improviser plein de choses, mais pas là. Je dis, au contraire, il va falloir préparer. Donc je te dis un oui de principe, mais simplement, il va falloir qu'on prépare. On commence à s'écrire et puis on verra quoi. Et puis ça a été une belle histoire intellectuelle. Puis si tu permets que je le dise, on fait une histoire d'amitié aussi. On s'est découvert tous les deux. D'abord, on a été longtemps avant de se voir. on s'est écrit sans savoir, enfin, Michael savait probablement à quoi je ressemblais, mais je veux dire, on s'est envoyé quelques lettres comme ça qui étaient des occasions de montrer bien sûr qu'il faut débattre, bien sûr qu'il faut débattre quand on n'est pas d'accord. Ça sert à rien de débattre si on est d'accord entre soi, et bien sûr qu'il faut débattre quand on n'est surtout pas d'accord. Parce que notre époque ne pense plus que le débat soit possible ou pensable. Rencontrer quelqu'un, c'est déjà avoir tort. Je l'ai expérimenté, mais je n'ai pas donné de nom, mais l'idée de rencontrer quelqu'un, c'était déjà se rallier à ce qu'il pensait. Je dis, mais pas du tout. On est là justement pour dire ce qui éventuellement nous réunit et puis ce qui nous sépare. Et Michael a dit tout à l'heure qu'effectivement, on n'avait pas la même formation d'une certaine manière. Et à Bordeaux, plus qu'ailleurs, il faut parler de Montaigne. Et quand Montaigne dit qu'il est catholique parce qu'il est français, enfin, qu'il est né en France, et que serait-il né en Perse, qu'il aurait probablement été musulman. Et je crois vraiment que je ne suis pas cartésien. C'est-à-dire, quand Descartes dit que l'idée qui est présente en nous quand on nous parle de Dieu, elle n'a pu être mise dans notre cerveau que par Dieu, je pense que non. Un enfant naturel ne croit pas en Dieu. Et ensuite, il ne croit pas au Dieu historique qui est celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. C'est une affaire culturelle pour moi. Et c'est vrai que quand tu dis qu'à un moment donné, tu me dis « la foi, ça s'éprouve plutôt que ça se prouve », je dis « on arrête ». Ça sert plus à rien, quoi, puisque le but, c'est pas de dire qu'on éprouve, mais c'est de dire comment on prouve. D'autant que moi, je pense aussi ça. Je pense que la question de la foi, c'est la question de la grâce. Alors d'abord, pour les Juifs, c'est plus ça peut être une histoire culturelle, familiale, de transmission. C'est un peuple, c'est une nation aussi. Et pour le catholicisme, par exemple, qui est plutôt la religion de mon roi de Manoris, le catholicisme, ça suppose la grâce. Alors je sais qu'il y a des grâces différentes. J'ai lu les jansénistes et Pascal. Mais je crois quand même, quand des gens m'ont maltraité avec mon athéisme, je dis, mais vous n'avez qu'à vous en prendre à votre Dieu. Il n'a qu'à me donner la foi, hein, c'est son affaire. Et vous verrez, ça se passera très bien.
Sachant que vous, dès le début, vous pointez ce mot essentiel qui est effectivement la question de la transmission et qui est aussi, pour le coup, là, l'un des points communs que vous avez entre votre pratique, Michael, et votre travail, Michel, qui est effectivement la transmission, c'est-à-dire à la fois un corpus. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Michael Azoulay, tout au long du livre, vous citez énormément de références, finalement beaucoup plus que Michel, de penseurs autour de la question de la foi et la croyance. Mais effectivement, cette double articulation qui est d'un côté la question de la transmission, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas de nulle part et on hérite d'un corpus, et aussi une autre question qui est très importante parce qu'elle est au cœur du judaïsme, qui est la question de l'herméneutique. Et ça, vous y insistez aussi, Michel, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une religion dont l'une des caractéristiques, c'est quand même ce rapport à la lecture, ce rapport au texte et ce rapport qui fait qu'on se constitue dans sa foi et dans son travail quotidien par la lecture des textes d'une multitude, d'un corpus qui est absolument considérable.
Oui, les points sur lesquels on est tombé d'accord, je pense, c'est déjà les déterminations qui font que l'on est ce que l'on est dans la vie, ça c'est certain. Moi, je suis né dans une famille juive, une éducation juive, etc. Donc, je suis devenu rabbin parce que on ne vient pas de nulle part, ça c'est clair. Maintenant, effectivement, au niveau de la transmission, j'ai tenu effectivement à référencer toutes mes affirmations, parce qu'effectivement, et c'est en ce sens, quand je parlais tout à l'heure un petit peu de la défiance par rapport à la philosophie, je pensais à une philosophie qui se construirait sans référent. Je ne pense pas que ça existe, mais ma raison me permettrait tout seul de me construire une manière d'appréhender la vie. En ce sens, il n'y a pas de philosophie juive, c'est-à-dire que si on prend même Maïmonide, les grands penseurs juifs, leur pensée se construit à partir de textes qui leur préexistent. Et c'est ces textes-là, ils se situent par rapport à ces textes, vous voyez, ils ne se situent pas par rapport à rien, ou alors par rapport à leur manière de raisonner, d'appréhender le monde. Il y a quand même toujours un texte qui est là, qui préexiste, et après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec le texte, mais le texte s'impose à moi. Voilà, et c'est un petit peu comme ça que personnellement je travaille, à travers les textes juifs qui sont très nombreux, c'est de voir le texte, réfléchir au texte, mais le texte est quand même quelque chose, un matériau qui préexiste et qui m'oblige à me situer par rapport à cela. Donc en ce sens, c'est peut-être un peu différent de la démarche philosophique pure qui serait de dire, voilà, j'exerce ma raison et je construis ma manière d'appréhender le monde par rapport à ma raison. Nous, notre raison, et c'est la question aussi de la révélation, ça veut dire qu'il y a une révélation aussi qui est là, et je me situe par rapport à cette révélation, évidemment en utilisant et cet outil merveilleux qui est l'intelligence et la raison, et qui effectivement dans la tradition juive, l'intelligence est vraiment au rendez-vous. Si moi j'ai pu débattre avec Michel, c'est aussi parce qu'il y a une culture du débat qui est très ancrée dans le Talmud, et en permanence, les maîtres du Talmud, j'en parle dans le livre, débattent avec toutes sortes de personnes qui pensent différemment d'eux. Donc voilà, il y a cette culture du débat qui m'est très chère, qu'on appelle en hébreu la marloquette, c'est-à-dire la controverse, et qui permet justement de ne pas avoir peur voilà, d'affronter celui qui pense différemment. Et si on a peur d'affronter celui qui pense différemment, c'est que l'on n'est pas bien solidement ancré dans ses propres convictions. Quelque part, il y a une faiblesse, c'est un aveu de faiblesse.
Avec une donnée très importante qui est que le sens ne précède pas la lecture. Parce que ça, c'est aussi, pour le coup, Michel, un des reproches que vous faites à la théologie, qui est de dire, en fait, on sait déjà où on va arriver, et après, on fait toutes les contorsions possibles et imaginables pour faire dire au texte ce qu'on a envie qu'il lui dise. Et la démarche que vous évoquez, Michel Azoulay, c'est au contraire l'idée que le travail de réflexion, de débat, etc., ça part du principe qu'on n'a pas déjà le sens et qu'il faut travailler, justement, pour essayer de répondre à des questions, fût-elles souvent, comme c'est le cas dans la tradition juive, d'autres questions elles-mêmes.
Oui, parce que je crois qu'on est juif et qu'on devient chrétien. C'est-à-dire qu'on hérite. Je me souviens quand moi j'ai appris un jour ce qu'était la Shoah. Avant, je ne savais pas. Mon père ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, on en parle vaguement, mais voilà, on en parle comme de l'histoire, quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert, et je suis né en 59, donc je ne fais pas partie de cette génération où on montrait au cinéma Nuit et brouillard, où on enseignait à l'école, on l'apprenait comme ça. Et j'avais parlé à Olivier Nora, mon éditeur à l'époque chez Grasset, je lui ai dit, tu sais, ce serait bien qu'on fasse un livre sur la façon qu'on a eu ou qu'on a de découvrir la Shoah. Et il me regardait en me disant, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. J'ai dit, à un moment donné, il me dit, non, on le sait depuis toujours. Olivier est d'une famille juive. Et c'est vrai, je me suis dit, de fait, quand on a un père, une mère, grand-père, grand-mère, enfin des cousins qui sont morts dans les camps de concentration, on n'a pas besoin d'apprendre un jour que ça existe, on le sait depuis toujours. On hérite de ça. Et c'est, on s'inscrit dans cette histoire, quoi qu'on fasse, on y est. Le catholicisme, c'est pas du tout ça. C'est un jeu de la grâce, ça suppose la foi, et la raison arrive après. Et de sorte que, à un moment donné, moi, j'ai plusieurs fois dit, y compris ici, que j'aurais bien aimé être moine, mais que j'avais pas la foi. C'était quand même le minimum pour le devenir moine, et que la question de la foi, elle n'avait jamais été importante pour moi, parce que aussi loin que je remonte, j'ai pas vraiment cru en Dieu. J'ai cru à l'histoire sainte, Jésus, Marie, Joseph, Gaspard, Melchior, Balthazar. On m'a raconté tout ça, puis le Père Noël, puis etc. Puis, à un moment donné, où j'ai cessé de croire au Père Noël et j'ai cessé de croire aussi à la divinité de Jésus, etc. Et c'est vrai que ça suppose presque un pari. Je ne vais pas dire seulement le pari de Pascal, mais il y a un moment donné où on va faire le pari de la grâce. Et je crois que quand on est juif, on n'arrive pas à la religion. On est du verbe être et du verbe naître dans la religion. Et qu'en matière de catholicisme ou de christianisme, eh bien, il faut bien sûr la foi qui suppose la grâce. C'est pourquoi je pense, mais ça c'est toi qui sais beaucoup mieux que moi, mais qu'on ne peut pas devenir juif. On l'est déjà, ou on l'est, mais l'idée de dire « je me convertis », ça m'a l'air compliqué, pour ce que j'ai pu en comprendre. Les amis que j'ai qui ne l'étaient pas m'ont expliqué que c'était très compliqué. Il y a juste un petit moment, par exemple, j'ai fait un livre sur Garouste, dont on connaît l'histoire, son père s'est enrichi avec la confiscation des biens juifs, et ça a été une horreur toute son existence, et il s'est mis à l'hébreu, il travaille l'hébreu, il fait des lectures d'un certain nombre de versets, enfin, et puis à un moment donné, il veut se convertir. Et le rabbin qui l'accompagne lui dit, ben, on en reparle dans un an. Et puis un an après, il lui dit, bon ben voilà, je vais toujours me convertir, et puis à un moment donné, le rabbin lui dit, mais pourquoi voulez-vous devenir ce que vous êtes déjà? C'est le génie juif de répondre sans répondre, tout en répondant et en disant, vous avez bien vu que c'est une question insoluble, à laquelle on peut répondre éventuellement par une autre question, mais on voit aussi tout le génie de ce peuple qui est dans la lecture et dans l'herméneutique, quand le génie chrétien est plutôt dans l'allégorie et la symbolique. C'est pas du tout la même chose, ce sont deux mondes franchement différents. Donc deux façons d'accéder à Dieu aussi, ou à non-Dieu, ou à l'absence de Dieu, ou à Dieu, point d'interrogation, qui sont complètement différentes. On a eu l'occasion de parler à un moment donné, tu sais, de la possibilité d'un rabbin athée. Il faut qu'on refasse un livre là-dessus, sur le... Il pourrait s'appeler le rabbin athée, d'ailleurs. Mais j'allais dire, un curé athée, c'est pas possible. Bon, il se fait que j'en ai connu quand même quelques-uns. Mais j'ai même connu un évêque athée, pour donner son nom, il est mort, et qui était un ami de Gérard Fagnon. À un moment donné, il fallait que je lui écrive. J'ai dit, mais on lui écrit comment? Mais quoi, votre excellence, votre sainteté ou sous-sainteté, enfin, je ne sais pas trop comment. Il me dit, mais il croit pas plus en Dieu que vous. Donc ça existe. Mais on va le faire, ce tome 2 sur le rabbin athée.
Mais vous savez qu'un rabbin qui étudie le Talmud est un rabbin athée, en fait. Parce que quand on étudie une page du Talmud, on met Dieu de côté. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne. Et si je ne comprends pas, je ne vais pas dire Dieu m'aidera à comprendre. Non, non, non. Tu te casses la tête, tu réfléchis. Donc il y a aussi quelque part, pour d'autres raisons que celle de Michel, une sorte de mise à l'écart de Dieu dans l'approche des textes. Et la croyance est importante dans la tradition juive, mais c'est pas ce qui est le plus important. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Michel, on est juif. C'est-à-dire, on est juif par sa mère, puisque j'ai transmis la mère dans la tradition juive, c'est ma trinitarité, et aussi par conversion, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et on est EST, c'est-à-dire qu'il y a le sentiment d'être juif par un destin. Il y avait un grand penseur juif qui disait toujours, le professeur Benjamin Gross, il disait toujours, être juif, ça n'est pas croire ou pratiquer, c'est être. D'ailleurs, il dit, c'est être juif. Et ça, je crois que c'est quand même assez important. Moi, j'ai beaucoup de juifs, par exemple, dans mes fidèles, mais qui ne sont pas croyants et qui sont profondément juifs. Ça peut paraître paradoxal, mais parce que être juif, contrairement à d'autres religions, il faut adhérer à certaines croyances, à certains dogmes. Là, c'est pas le cas. Être juif, c'est une histoire. Donc, si j'ai une histoire, et vous avez parlé de la Shoah tout à l'heure, par exemple, une histoire qui fait qu'on m'a assigné à cette identité, ben, je suis juif par cette histoire. Donc, être juif n'est pas qu'une question de croyance ou de pratique, de praxis, c'est avant tout une question d'être.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une religion morale et beaucoup plus centrée sur cette question-là que sur le rapport à Dieu. Et ce qui pour le coup rejoint des préoccupations proprement philosophiques, c'est-à-dire que finalement on est plus proche d'une forme d'éthique, c'est-à-dire d'un corpus de règles, mais comme vous dites aussi que les règles ne sont pas là que pour contraindre, elles sont aussi ce qui ouvre un champ de liberté, beaucoup plus que la question permanente du rapport à Dieu, de savoir si on a été bien obéissant à Dieu, etc. C'est quand même la question de la communauté qui revient en permanence, puisque ce qu'il faut préserver finalement, c'est la communauté plus que le rapport à Dieu.
C'est-à-dire dans le judaïsme, je trouve Dieu à travers l'autre. Parce que parfois certains disent c'est l'inverse. Je vais aller vers l'autre en passant par Dieu. Là, c'est l'inverse. Je vais vers Dieu en passant par l'autre. Le verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est un verset du Lévitique, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la fin que souvent les gens oublient ou ne connaissent pas, c'est je suis l'Éternel. Mais c'est intéressant. D'abord, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la fin du verset, la deuxième séquence, je suis Dieu. Donc, ça veut dire que pour aller vers moi, commence par aimer ton prochain. Bon, après, il faut effectivement définir qu'est-ce que c'est l'amour du prochain. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est dans ce sens-là qu'on va vers Dieu. C'est en passant par le prochain, par l'autre.
Bah, parce que, effectivement, justement, vous l'avez évoqué avec la question de la conversion que Michel a évoqué aussi. Et un autre point qui revient à plusieurs reprises et longuement dans le livre, qui est la question ou non d'un prosélytisme juif. C'est-à-dire qu'effectivement, traditionnellement, et c'est ce que vous dites, Michel, le judaïsme est identifié comme une religion non prosélyte par rapport aux autres religions du livre. Alors, vous êtes un peu plus nuancé, Michel Azoulay, dans le sens où vous expliquez que dans des moments historiques, il a bien fallu qu'il y ait une forme de prosélytisme pour que la communauté se renouvelle, et ça, c'est une chose qui vous semble effectivement importante, Michel, justement, dans le rapport à la religion, parce que l'un des reproches, si l'on peut dire, que vous faites aux religions, c'est quand même cette idée qu'elle ne laisse pas tranquille ce qui devrait être une affaire privée, et elle va demander à l'autre de rendre des comptes de sa foi. L'une des choses qui vous semble intéressante dans le judaïsme, c'est cette dimension-là, c'est-à-dire qu'effectivement, un juif ne va jamais venir vous voir en vous disant mais comment vous vivez, qu'est-ce que vous mangez, et donc chacun est dans son fort intérieur.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au moment du traité de la théologie, j'avais dit que je n'avais rien contre les agenouillés, mais que j'avais contre les agenouilleurs. Et effectivement, on voit avec Michael qui n'a pas la tête d'un agenouilleur. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans la même logique que ceux qui, jadis, avec le christianisme, nous disaient, surtout saint Paul, un christianisme paulinien, pas le christianisme de Jésus, plutôt celui de saint Paul avec son épée, et qui vous dit effectivement qu'il faut faire ceci, cela, et que si ça se passe pas comme ça, ben ça va mal se passer. Et on voit bien qu'avec le clergé, etc., c'est-à-dire que dans le christianisme, quand on interroge Dieu, c'est le clergé qui répond. Quand on interroge Dieu chez les juifs, c'est le texte qui répond, et c'est la lecture qu'on fera du texte. C'est-à-dire qu'on a intérêt à être génial, parce que finalement, c'est la raison, c'est l'intelligence qui fait la loi, et c'est pas du tout la puissance du curé ou de l'évêque ou du cardinal ou du pape. Et de fait, quand j'avais parlé de ces trois religions, je disais, bon, il y en a une qui est identitaire et nationale, et pour moi, ce sont des belles épithètes. Hein. On fabrique un peuple, on conserve un peuple, on fait un peuple, on fabrique une communauté, donc tout ça est formidable, et on se protège de ce qui nous interdit d'exister comme une communauté. Moi, je trouve ça très bien. Le christianisme a existé, il est évidemment en moins bonne forme. Ce qui fait d'ailleurs que je n'ai plus la même relation au christianisme quand je publie, quand je parle, quand j'écris, etc. Je pense qu'en 25, enfin je sais plus, 20 ans, quelque chose comme ça. En 20 ans, il s'est passé des choses un christianisme plus effondré et un islam qui surgit de manière un peu violente, et de manière un peu de manière violente, même si effectivement c'est pas tout l'islam, ce sont pas tous les musulmans, mais les minorités agissantes font plus de bruit que les majorités silencieuses. Et à un moment donné, où on voit que cet islam se met à s'intéresser à tout le monde en disant pas de sapin de Noël, pas de crèche, pas de porc dans les cantines, pas de ceci, pas de cela. Enfin, tout le monde connaît l'histoire. Et là, pour le coup, on a affaire à des agenouilleurs. Et donc, je me sens très judéo-chrétien, parce que le christianisme procède du judaïsme et qu'il y a une communauté de vues. Alors évidemment, la puissance du christianisme s'étant effondrée, je suis un athée qui défend la chrétienté. Et encore plus le judaïsme, parce qu'il y a un génie qui n'aurait pas été possible, le génie chrétien n'aurait pas été possible sans le génie juif, et donc ça constitue une identité. Moi, j'ai fait sursauter des gens qui me disaient « mais non, le judéo-christianisme, ça n'existe pas ». Quand on dit judéo-christianisme, on ne dit pas judaïsme, ça n'abolit pas, sauf pour les chrétiens, mais ça n'abolit pas, c'est une religion qui se constitue. Il y a des ébionites aussi, sur lesquels je reviendrai, mais enfin des ébionites qui font le passage avec l'islam, c'est-à-dire du judaïsme à l'islam en passant par le christianisme, et avec le paulinisme entre deux et avec les ébionites entre deux aussi, mais entre christianisme et islam, on voit bien qu'il y a quelque chose d'identique, il y a une identité. Donc ça, c'est à creuser, je pense. Mais de fait, il y a pour moi la nécessité d'une défense de la chrétienté, et plus encore une défense du peuple juif, parce qu'il est mis à mal dans notre société, dans notre civilisation, où l'antisémitisme est à droite cité, sous prétexte que ça se fait au nom des droits de l'homme, de la gauche, de la critique de l'argent, du capital et du capitalisme, de l'assimilation d'Israël au sionisme, le sionisme aux États-Unis et les États-Unis à l'argent, etc., etc. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une façon politiquement correcte d'être antisémite, et je pense effectivement que le judéo-christianisme permet, le judaïsme bien sûr, mais comme je n'en suis pas, je veux dire, le judéo-chrétien que je suis, qui défend la chrétienté, dit attention, il y a un peuple en danger. Je ne vais pas parler de l'Europe, mais au moins en France, ça c'est évident.
Okay. Juste rajouter par rapport au fait que le génie n'est pas prosélyte, effectivement, c'est parce qu'on considère que la tradition juive s'adresse aux juifs, tout simplement. Comme vous l'avez très bien dit, je mange cachère, je respecte des lois alimentaires, ça concerne que moi. Et par ailleurs, il y a une place qui est aménagée pour ce qu'on appelle le génie des peuples, c'est-à-dire que chaque peuple, chaque nation. Vous savez, il y a ce concept, certains ont entendu parler peut-être du concept des 70 nations, les 70 peuples. Et donc l'idée, en fait, c'est que chaque nation a un génie propre. Et il est hors de question de vouloir construire un universel en effaçant ces différences pour qu'il y ait une sorte une identité qui émergerait, qui serait la seule identité dans laquelle il faudrait se reconnaître. Et donc même le messianisme, donc cette idée de fin des temps où les nations seront réunies, elle ne s'exprime pas sous l'idée d'un effacement des différences. C'est un universel qui se construit avec une coexistence des différences, avec un point commun qui serait la reconnaissance dans le messianisme juif de l'existence. Justement, c'est la question avec Michel. Il viendrait un jour où Michel serait obligé de reconnaître que Dieu existe. Voilà. Mais pour autant, ça n'obligera pas à se convertir. Ça veut dire qu'il gardera son intelligence, sa manière de voir le monde, etc. Simplement, voilà, chacun reste ce qu'il est. Et il est hors de question de vouloir. Il y a un très beau texte de Maïmonide qui dit que quand un non-juif respecte ce qu'on appelle les sept lois de Noé, dont je parle dans le livre, c'est des lois de morale en fait, une charte morale universelle. Maïmonide dit que devant ce non-juif, le juif doit se lever en signe de respect, qu'il a le droit à ce qu'on croit, Michel ne croit pas, l'éternité, l'immortalité de l'âme, au même titre qu'un juif qui respecte les 613 commandements. Donc vraiment, il y a cette mise à égalité totale sans que le non-juif ait besoin de se convertir au judaïsme.
Et en même temps, et vous le soulignez bien dans le livre, il y a quand même une tension qui parcourt le judaïsme. C'est la tension entre, d'un côté, l'identité, et comme vous l'avez évoqué, c'est la nécessité de faire en sorte que cette identité se perpétue via la transmission à la fois des individus et des textes, et ce que vous appelez le narcissisme communautaire, c'est-à-dire faire en sorte que cette identité ne soit pas quelque chose de complètement clos et qu'il s'enferme sur lui-même. Et cette tension, elle parcourt quand même quotidiennement, j'imagine, la question de la communauté juive et du judaïsme.
Complètement, complètement. Un petit témoignage personnel, moi je suis rabbin à côté de Neuilly-sur-Seine, j'accueille énormément de personnes en conversion, donc des non-juifs, plutôt des femmes en général d'ailleurs, plus que des hommes. J'ai pas fait d'études sociologie pour savoir pourquoi, mais il se trouve que c'est surtout des femmes, jeunes, moins jeunes, qui souhaitent se convertir au judaïsme. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, parce que quand vous êtes juif de naissance, même si vous ne pratiquez rien du judaïsme, vous êtes juif. Quand vous voulez devenir juif,
Donc, c'est être juif par adhésion et non plus cette fois-ci par atavisme, enfin par naissance. Et là, du coup, on exige de la personne qu'elle adhère à l'ensemble des commandements. Et donc, c'est vraiment un changement de vie absolument total et qui n'est pas toujours facile. Mais vous avez raison, cette tension existe entre, et si on en parle dans le livre, c'est la question de savoir que le fait que la conversion finalement soit possible dans le judaïsme, c'est quelque part nous dire que le non-juif va aussi apporter au judaïsme la possibilité. Et là, moi, je n'étais pas très d'accord, mais la possibilité de ne pas s'enfermer dans son identité. Et je le dis dans le livre un peu de manière provocatrice, parce que quand quelqu'un se convertit, souvent, dans le peuple juif, on dit ben, « c'est lui qui a intérêt à se convertir, à devenir juif ». Je pense que ce n'est pas si simple. Je pense que le peuple juif a aussi intérêt à recevoir une autre manière d'être, qui est la manière non-juive d'être, comme disait un grand maître. Il y a une manière juive d'être au monde, une manière non-juive d'être au monde. Et le judaïsme s'enrichit de cela. Donc je crois que c'est pas simplement quelqu'un qui se convertit, fait pas table rase du passé de ce qu'il a été. Il apporte aussi ce qu'il a été et ce qu'il est au peuple juif. Donc vous avez très, très bien souligné, mais j'ai aimé très souvent une pensée pas contradictoire, parce qu'il y a aussi une forme d'universalisme et puis parfois de particularisme. Et c'est en permanence comme ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une pensée très pensée du contradictoire. On n'a pas peur de dire une chose et parfois son contraire, ce qui déstabilise parfois un peu les gens. Mais c'est la complexité de cette pensée qui fait sa beauté.
Michel, vous voulez réagir ou... Mais sinon, après, il y a un point sur lequel vous vous retrouvez. C'est juste un moment hein, du livre, mais c'est le peu de considération que vous avez l'un et l'autre pour la figure de l'agnostique, puisque finalement vous en faites un peu une sorte de salaud sartrien, c'est qu'en fait c'est celui qui choisit de ne pas choisir, et que ce soit pour vous ou pour vous Michel, il y a l'idée que en fait c'est finalement s'il y a une position qui n'est pas tenable, c'est celle de l'agnostique, c'est-à-dire qu'on peut comprendre celui qui croit en Dieu, on peut comprendre celui qui n'y croit pas, mais celui qui est dit oui je sais pas peut-être on verra, ça ne fonctionne pas, c'est celui qui n'a pas travaillé finalement.
C'est celui dit en même temps quoi. C'est... Donc on comprendra qu'il n'est pas ma sympathie. Mais je fais une sociologie de l'agnostique. C'est-à-dire que je comprends très bien que quelqu'un qui, je sais pas, qui travaille à la chaîne, par exemple, qui n'est pas familier des livres, de la pensée, de la bibliothèque, etc., lui, je pense qu'il a le droit d'être agnostique. Il ne sait pas et il a le droit de ne pas savoir. Non, je dis que les philosophes agnostiques me posent problème. Pas les agnostiques de la rue, au sens noble du terme. Hein. Je comprends très bien que des gens ne sachent pas, doutent, soient inquiets de ce qui se passe. Tu as parlé tout à l'heure de l'immortalité de l'âme, parce que, bon, l'éternité, l'immortalité de l'âme, c'est pas forcément facile pour quelqu'un qui n'est pas versé dans la pensée, la réflexion, la spiritualité, de trancher, clairement. Mais je pense que des gens qui font profession de penser, de philosopher, de lire, d'analyser, etc., et qui nous disent qu'ils sont, j'allais dire, encore agnostiques, sont des gens à qui j'ai envie de dire, mais encore un effort, quoi, travailler un peu, et puis trancher franchement, quoi, en disant oui, non, mais il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Donc oui, l'agnostique m'énerve quand il est un philosophe de profession, ou un penseur de profession.
Michel, vous
rejoignez Michel. Moi, je suis un peu plus indulgent.
C'est ça. De façon générale, vous l'êtes.
Ouais, voilà, de façon générale.
Ça se perçoit dans le livre.
Mais oui, effectivement, c'est peut-être ce qui me gêne un petit peu chez agnostique, c'est la peur de l'engagement. C'est-à-dire, à un moment donné, voilà, il faut trancher. Et on peut se tromper, puis un jour revenir en arrière, mais en tout cas, allez, on y va. Et donc, effectivement, voilà. Mais l'agnostique, je peux aussi comprendre sa manière de s'interroger, parce que comme le dit Michel, il y a beaucoup de notions dans les traditions religieuses qui sont très difficiles à établir, quoi. Soyons honnêtes, même la foi en Dieu, d'ailleurs on en parle, parce que la foi en Dieu, quand vous dites foi, par définition ça suppose le doute. C'est pour ça que moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec il y a un livre qui est sorti récemment, un best-seller d'ailleurs, où on essaie de démontrer scientifiquement l'existence de Dieu. Moi j'ai du mal avec ça, parce qu'en fait si on me démontre scientifiquement l'existence de Dieu, il n'y a plus de notion de foi. Et pour moi, on n'y arrivera jamais, et tant mieux, parce que si on y arrive, on a complètement détruit, trucidé la notion même de foi, qui repose sur une notion, quelque part, de doute. Il y a toujours ce doute qui est consubstantiel à la foi. Vous voyez, et c'est pour ça que ces notions, l'agnostique, quelque part, a un peu du mal, parce qu'il y a cette impossibilité de faire la preuve de notions qui relèvent de la croyance et qui font justement que le doute est là, quoi.
Moi, j'ai des problèmes avec le doute aussi. Parce que je pense que c'est un moment, le doute, dans la pensée et dans le cheminement de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique de la pensée et le moment du doute est nécessaire. Bon, chez Descartes, le doute est provisoire. C'est-à-dire qu'on doute pour parvenir à une certitude. Et je trouve que j'ai quelques amis prêtres qui m'ont fait la confidence de me dire que, dont certains sont dans les ordres, enfin sont moines, et qui m'ont dit que c'était pour fortifier leur foi qu'ils étaient entrés dans un monastère, alors que moi je pensais qu'on avait vraiment la foi et qu'on y allait, quoi. Pas du tout. Et donc ça peut arriver aussi d'avoir des doutes, y compris sur des questions de foi. Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple, a été pendant des années, ne croyait plus. Elle était tout le temps au Carmel, malgré tout. Sœur Emmanuelle, je crois, qui a été pendant des années aussi, elle avait perdu la foi. Et c'est elle qui était... Non,
il y a des... Je ne voudrais pas vous dire.
Celle qui était en Inde et qui travaillait, c'était
Mère c'était Teresa, ça. Non.
Ou Mère Teresa.
En Inde, c'est Mère Teresa.
L'une des deux. L'une des deux a perdu la foi, et c'est son confesseur, d'ailleurs, qui a dit qu'elle avait perdu la foi. Et donc, c'est vrai que je pense que le doute est méthodique, méthodologique, et qu'il doit parvenir, il doit permettre de parvenir à des certitudes, et qu'il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut travailler, y compris rencontrer un rabbin, un prêtre, et puis s'ouvrir à cette autorité spirituelle pour avancer, en disant « je suis dans une ornière, aidez-moi ». Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs pour... Je pense qu'il y a des bonnes lectures pour ça. Il y a toujours un bon livre pour une bonne question. Et c'est normalement le rôle du prêtre en la matière de dire, ou même du rabbin. J'ai vu ce film là avec Gad Elmaleh, la question du doute, de la réflexion, de l'analyse, du comportement un peu hilarant des catholiques là, qui sont un peu des catholiques de la vie est un long fleuve tranquille, quoi. C'était on joue de la guitare, etc. Et puis le génie du rabbin Orweller qui on se dit bon voilà, on est passé à autre chose, quoi. On pense, on réfléchit, on analyse, on accompagne dans l'hypothèse juive ou dans la réalité juive, ce qui n'est pas le cas chez les chrétiens, parce que bon, d'abord, c'est une religion qui disparaît, mais je pense que le doute, c'est le couple avec l'agnostique. Hein, le doute et l'agnostique, pour moi, sont des gens qui n'ont pas assez pensé, pas assez réfléchi, ou qui n'ont pas assez pris la question au sérieux, quoi, en se disant, mais non, je veux résoudre ce problème-là, il n'est pas question que ça reste en suspens.
Mais c'est là où, par ailleurs, vous vous rejoignez, même si ce n'est pas avec le même vocabulaire. Vous citez un moment, Michael Azoulay, une très belle phrase de Marc Bloch, expliquant que à partir du moment où on s'obstine à juger, on finit par renoncer à comprendre. Et ça rejoint ce que vous dites un moment, Michel, où vous êtes du côté de la généalogie, évidemment, sous le sens nietzschéen que ça peut avoir, contre la moraline, mais c'est finalement la même idée. C'est-à-dire que le fait de vouloir chercher à comprendre est forcément opposé à un moment à l'idée de vouloir juger. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de faire précéder le jugement à la compréhension fait qu'on abandonne une forme de la raison. Et ça, pour le coup, vous rejoignez complètement l'un et l'autre sur ce point de vue-là.
Mais en fait, ce qui met à mal la foi, on en parle beaucoup dans le livre, c'est à mon avis le plus intéressant, ce qui met à mal la foi, c'est quand même les épreuves, quoi. C'est le mal. Moi, tout à l'heure, Michel parlait de la Shoah. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, j'avais lu Le Bréviaire de la haine de Léon Poliakov. J'étais donc dans une école religieuse, une école juive, et j'étais jeune, donc l'âge de l'adolescence où on remet un peu tout en cause, y compris une éducation religieuse. Et je me pose la question si à ce moment-là, j'ai pas perdu la foi. C'est-à-dire que quand j'ai vu les descriptions des horreurs nazies, etc., c'est... Voilà, immédiatement le croyant dit mais bon alors évidemment où était l'homme à ce moment-là, mais où est Dieu, la question se pose. Et alors là, alors après certains vont abandonner Dieu à cause de ça, d'autres comme Elie Wiesel vont dire pour ou contre Dieu mais jamais sans Dieu. Moi c'est un peu le choix que j'ai fait, mais voilà, mais c'est vrai que la foi en réalité, tant qu'elle est dans la vie normale, quand on vit bien, une vie confortable, etc. Voilà, c'est pas très très difficile de croire, mais c'est quand on vit des épreuves où là effectivement la foi est mise à l'épreuve, et c'est là que réellement le doute peut surgir, je pense, et même chez le croyant. C'est un peu ce que j'essaie de dire à Michel, c'est que les gens ont souvent un peu l'image du croyant, même du rabbin ou du prêtre, qui a un long fleuve tranquille, on croit de manière, vous voyez, immuable, solide. Pas du tout. Il y a des choses dans la vie qui arrivent. Parfois, c'est des proches, etc., des enfants, enfin, qui vont mourir, des choses comme ça. C'est impossible de ne pas se poser de questions. Ou alors, c'est qu'on a un problème.
Mais on le voit d'ailleurs dans la... Puisque ce que vous évoquez, c'est effectivement toute la partie du livre où vous discutez autour du livre de Job, qui est évidemment le grand livre de réflexion sur la question du mal. Et on voit bien effectivement que vous êtes dans une position beaucoup plus dialectique, si on peut dire, par rapport à essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu agit à ce moment-là comme ça vis-à-vis de Job, que vous, Michel, dans lequel, effectivement, vous considérez qu'il y a un moment, il n'y a pas de... Enfin, on ne peut pas sauver Dieu de cette affaire et qu'on ne peut pas à la fois concilier la question du mal et celle de Dieu, enfin, vous, ça vous semble parfaitement irréconciliable.
Bah d'abord, le plaisir que j'ai eu à échanger avec Michael, on faisait des échanges de courriels, bon, je reçois plus d'une centaine de mails par jour, et quand je voyais le mail de Michael, j'avais un vrai plaisir. Je me suis dit, ah, et j'ouvrais la pièce jointe et je lisais tout d'un seul coup, puis après je relisais, puis je prenais des notes, et puis je relisais, etc. Et donc ça m'a contraint, on l'a fait souvent, Michael et moi, enfin, à reprendre la Bible, le Pentateuque, enfin la Torah, et à reprendre le texte et à relire très précisément. Et moi, je ne pratique aucune langue, et donc j'avais plusieurs traductions de la Bible, je reprenais, je regardais. Et puis un truc qui m'est apparu, je me suis dit, mais je connais ce texte-là quand même, la Genèse, le début de la Genèse, et l'histoire du paradis, je connais ça depuis toujours. Et il y a un truc qui ne m'était pas du tout apparu avant la lecture que je fais pour Michael, c'est qu'on se trouve dans le paradis. Et on connaît l'histoire, Adam, Ève, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, etc. Et puis d'un seul coup, le serpent arrive. Le mal est là. Ça veut dire que dans le paradis, il y a déjà le mal. Est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement, le serpent, il arrive après, quoi. Et à la faute, le serpent arrive, le mal rentre dans le paradis, ça n'est plus un paradis, ça devient l'enfer, etc. Mais alors, dans le paradis, il y avait le mal. C'est toi qui m'as fait découvrir ça en me disant, mais il était déjà là. Parce qu'il entend les pas. Enfin, il y a un moment donné, quand on lit ligne à ligne, et à un moment donné, on se dit, mais il est là. Qu'est-ce que ça veut dire, un paradis dans lequel il y a déjà le mal? Et c'est allégorique, bien sûr. Moi, j'ai la réponse sur la question du mal, parce que je crois que quand on fait de l'ontologie, de la métaphysique, de la théologie, on ne trouve pas, on ne trouve jamais. Ou alors, on est comme Lévinas. On parlait tout à l'heure de la Shoah. Lévinas, il dit, ah non, mais Dieu est en retrait et il laisse les choses faire. Mais il a choisi le retrait, quoi. Oui, d'accord, mais pourquoi Dieu choisit le retrait, quand même? Et moi, je pense que la réponse, elle est donnée chez Darwin. 1859, l'origine des espèces. 1871, la filiation de l'homme. Et le mal, il est dans l'animal que nous sommes. Il est dans le fait que nous soyons, malgré le développement du cortex, nous disposions encore d'un cerveau reptilien, et le fait que le délire d'un Adolf Hitler ait pu fonctionner comme il fonctionne, le bouc émissaire, enfin, je crois que nous sommes encore des animaux, et encore, certains animaux ne sont même pas capables de faire ça, c'est-à-dire jouir en infligeant de la souffrance, il n'y a pas ça chez les animaux, il y a ça chez les nazis. Donc il y a un moment donné où on se dit, effectivement, cet animal prétendu supérieur qu'est l'homme, il génère des comportements de territoire, d'animal de territoire, de destruction du territoire, d'envahissement de l'espace vital, d'élargissement de l'espace vital, etc. Et que si on fait de l'éthologie, on n'a plus besoin de faire d'ontologie. Et donc la question du serpent, c'est allégorique, c'est une belle image, mais je pense qu'il y a du mal dès qu'il y a de l'homme.
C'est pour ça qu'en revenant à l'hébreu nachash, le mot serpent c'est nachash, et j'explique que Nahash, c'est l'essence, c'est tout ce qui le monde sensoriel chez l'être humain. Du coup, le serpent n'est plus extérieur à l'homme, mais il est en l'homme, en fait, même si il est décrit comme étant extérieur à l'homme. Mais en réalité, le Nahash, c'est tout ce qui suscite chez l'homme la sensorialité et qui parfois peut l'amener à l'erreur. Donc, en fait, on se rejoint là-dessus aussi. Mais ça oblige parfois à revenir à l'origine, à la langue d'origine. Sinon, on peut passer à côté du sens.
Oui, c'est là où vous soulignez à plusieurs reprises, effectivement, Michel, les questions innombrables posées par les points de traduction. Mais par rapport à ce que vous dites là, effectivement, ça rejoint un point sur lequel, jusqu'à une certaine façon, vous êtes commun, qui est l'idée qu'il y a quand même une sorte de destin tragique de l'homme. C'est-à-dire que globalement, les choses ont finalement assez peu de sens et sont difficilement supportables. Et après, il y a différentes façons de les supporter. Vous avez fait le choix, Michel, vous, d'une tradition philosophique en disant c'est pas parce que les choses n'ont pas de sens qu'il faut verser dans le nihilisme. Et ce que vous dites, Michael Azoulay, c'est que pour le coup, les textes religieux sont des textes qui permettent par leur lecture, justement, de comprendre, si ce n'est d'accepter, au moins de rendre supportable, et c'est l'une des fonctions, pour le coup, peut-être aussi du livre de Job, de rendre supportable des événements qu'on peut croiser dans sa vie, et qu'importe si à la fin on ne résout pas la question théologique de savoir si Dieu, si le diable, etc. Le livre en lui-même, fût dans une lecture métaphorique, permet quand même, et c'est un soutien de ce point de vue-là, même si c'est une fiction, ça permet quand même, et c'est l'une des fonctions de ces textes-là, et c'est pour ça qu'il faut les lire, et les lire au sens de les travailler comme un philologue, presque.
C'est la question qu'on a abordée, la solitude de l'incroyant, en fait. On en a parlé dans le livre. C'est-à-dire que chez celui qui croit, en fait, il y a... Alors, certains vont dire que c'est un refuge psychologique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce sentiment qui est fort, hein, de pas être seul, quoi. Et même dans des moments difficiles, quand il y a cette croyance en Dieu, une sorte de force autour de nous, de puissance autour de nous, même si on l'a indicible, qu'on ne voit pas, invisible, ça aide. Quelque part, ça permet de donner du sens, même si on ne trouve pas le sens, mais ça donne du sens. Et dans la tradition juive, il y a quand même cette idée d'une philosophie de l'histoire et d'un sens de l'histoire. Et dans les deux sens du terme, hein, ça veut dire une direction et une signification. Voilà. Et même si et c'est là aussi où on n'est peut-être pas forcément d'accord, c'est que parfois on ne comprend pas les événements. Alors la question, c'est est-ce que ma raison est toute puissante? Et c'est aussi un sujet dont on a débattu. Ça veut dire est-ce que l'être humain est capable, est-ce qu'il peut tout mesurer à l'aune de sa raison, ou est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui dépassent l'entendement? Évidemment, la démarche du croyant, c'est de considérer qu'il y a parfois des choses qui dépassent son entendement, mais ça, pour autant, ça ne l'oblige pas à remettre en cause sa croyance. C'est simplement une forme d'humilité ou de modestie que certains vont peut-être appeler la paresse intellectuelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous le vivons, que je le vis.
Michel, est-ce que pour le coup, c'est quelque chose que vous reconnaissez, enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais le fait qu'effectivement, on peut trouver dans la Bible, dans la Torah, quelque chose qui soit autre chose que le document religieux, mais effectivement un instrument philosophique par lequel on arrive à une forme de compréhension de la vie, du sens, etc.
Ah oui, bien sûr, il y a une morale des évangiles, mais en même temps, les évangiles procèdent de l'Ancien Testament qui, dans certains livres, les proverbes par exemple, les livres de sagesse qui sont vraiment très praticables, sans être dans la logique du respect du rite, il y a une espèce de morale universelle. Je pense que le philosophe aborde les textes comme des textes historiques et pas comme des textes sacrés, c'est-à-dire qu'il y a toujours des racines historiques à des textes sacrés. Et donc, évidemment, il ne nous reste pas grand-chose d'Assur, de Sumer, de Babylone, l'épopée de Gilgamesh, elle est trouée quand même dans pas mal d'endroits. Mais on voit bien, par exemple, que l'épisode de Noé, du déluge, ça se trouve dans ce qui nous est parvenu de l'épopée de Gilgamesh, et que ça donne le texte juif qui va donner la mythologie chrétienne, etc., etc. Donc il y a tout ça. Et en fait, on a un vieux fond chrétien, c'est-à-dire que quand on un vieux fond universel, je veux dire, j'ai acheté le début d'une édition de tous les textes égyptiens qui sont en train de se faire, là, deux forts volumes de 500 pages. J'ai lu les deux premiers comme presque des romans, mais on est déjà avec Imhotep, etc. Enfin, des gens comme ça qui disent des choses. On enlève le nom, on dit que penses-tu de cette phrase? C'est un livre de sagesse pharaonique. Eh bien, c'est juif, puis c'est chrétien, et puis c'est universel. Des gens qui aujourd'hui seraient franc-maçon, humaniste, athée, et qui défendrait une morale universelle, disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aimer son prochain, qu'il ne faut pas le tuer, qu'il vaut mieux dire la vérité plutôt que de mentir, qu'il vaut mieux être fidèle qu'infidèle, qu'il vaut mieux être sage que fou, etc., etc. Donc, oui, bien sûr, on peut vivre selon les évangiles, on peut vivre selon l'Ancien Testament. Tu disais tout à l'heure que tu ne pensais pas qu'une philosophie puisse sortir d'elle-même, procéder d'elle-même. Si, par exemple, le matérialisme de Démocrite, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Démocrite dit « Ah, mais j'ai fermé les volets, c'était le plein été, la chaleur, il fait très chaud, je ferme les volets. D'un seul coup, je vois un ray de lumière, et dans le ray de lumière, je vois des particules qui dansent. » Et à partir de cette expérience, il dit « Mais il y a des atomes, c'est invisible, etc. » Il construit tout. Alors ça va donner, il y a Leucippe, il y a Démocrite, il y a Épicure, il y a Lucrèce, il y a tous les épicuriens. Mais je pense qu'une philosophie qui récuse toute transcendance est possible. Ça, je le crois vraiment. Et je pense aussi qu'il y a un vieux fond universel pour la morale. Alors, on s'en va vers une disparition de la morale. Aujourd'hui, ça paraît évident. Mais il n'empêche que même les gens qui volent savent qu'il vaut mieux ne pas voler, théoriquement, du moins ne pas le dire. Ils se cachent, ils ne le disent pas, ils ne le clament pas haut et fort. Il y a quelques salauds comme ça que la gauche a transformé en héros, Gilles de Rais, le Marquis de Sade, Lassner, ou des gens comme ça. Je suis désolé, mais enfin, on ne peut pas imaginer que ce soit des héros ou des modèles. C'est pas possible. Le jour où des gens se comportent comme ça dans la vie, d'un seul coup, on se dit « Ah, c'est pas bien, celui-là, c'est pas bien. » Il fait exactement la même chose que votre héros, quoi. Donc, il y a un moment donné où il faut être cohérent. Et ce vieux fond universel, il prend des formes historiques, mais dès qu'il y a de la morale, c'est-à-dire dès qu'on lutte contre le cerveau reptilien et qu'on fait fonctionner un peu le cortex, c'est plutôt la paix que la guerre, plutôt le dialogue que l'insulte, plutôt, etc., etc. Et on voit bien que sur ce sujet, ça recule ces temps-ci.
Alors, on ne peut malheureusement pas aborder tous les sujets extrêmement nombreux du livre, donc il va plutôt passer la parole au public. Donc, je vous remercie énormément d'avoir rendu compte un peu de cet échange, et merci beaucoup pour ce magnifique débat.
Merci.